juste en une minute rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, je partage vos deux points de vue. J'ai la même expérience de 5-6 ans, politologue, sociologue, qui travaille sur le changement climatique. Mais j'y foutais quoi? Mais franchement. Puis quand on était invité, c'est parce qu'il y avait des techniciens, des ingénieurs qui devaient répondre à un appel à l'ANR et qui disaient qu'il devait y avoir un volet social. Alors ils nous disaient, vous ne pouvez pas nous faire un truc sur acceptabilité. C'est pour demain.
Ah oui, en général.
Et puis trois phrases. Parce qu'on n'a pas de place pour le reste, quoi. Donc, en fait, c'était du marketing. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, il n'y a pas longtemps, je fais partie d'un groupe de recherche sur les nouvelles technologies d'énergie dans le bâtiment à Lyon, à Grenoble. J'étais le seul qui est rentré là-dedans. Il y avait des gens de DF, cravate, tout ce que vous voulez, qui utilisent très, très bien PowerPoint, donc des professionnels, et pas des académiques. Et là, ma parole était d'or. Et je n'ai pas été capable de m'empêcher de voir la différence en 5 ans. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une évolution sur l'attitude face aux questions énergétiques et aux questions climatiques pour les sciences sociales. À Copenhague, il y a une conférence de préparation scientifique avant la conférence politique. Et là, on vantait en fait que les sciences sociales étaient présentes. Et il y a un des sociologues qui a fait un petit calcul et à la fin de la conférence, il dit « Nous représentons sciences sociales, hein, toutes confondues, environ 7 à 8% du total des chercheurs présents. » C'est un record quand même.
Économiste compris.
Oui. Non, pas économiste. Non, lui n'avait pas, pas compris économiste. Et d'ailleurs, j'y ai fait la réflexion aussi, parce que bon, les économistes sont très présents depuis plusieurs années sur le. Alors, pour revenir à ma question en termes de méthode, je pense que c'est une façon de répondre aux deux. Moi, ce que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer, c'est que quand je regardais les baromètres, les eurobaromètres, INSEE, ADEME, etc., toutes les enquêtes, première question, et on regarde le protocole de recherche, on décroche le téléphone. Bonjour, on voudrait vous poser quelques questions sur l'environnement et sur votre consommation, sur votre mobilité, sur votre habitat, sur. Mais bien entendu, quand on me dit on va vous parler de l'environnement, tout le monde devient kélo. Je prends beaucoup moins ma voiture. Par définition, parce que l'entrée en jeu, elle est écolo. Donc, les questions sont biaisées. Donc, moi, une façon de compenser pour ça, c'est bonjour, je voudrais vous parler de votre mobilité. Et ensuite, on pose des questions sur les représentations face au bus, qui est vu comme un éléphant, etc. La voiture comme une gazelle, etc. La logistique pour qu'on se déplace, des trucs très pragmatiques. Et à la fin, nous voudrons vous poser maintenant juste quelques questions sur le changement climatique. Donc, je reprends à l'envers un peu, ça pour ne pas donner un biais pro-environnement, pour tenter d'avoir quelque chose qui me semble un peu plus équilibré, en tout cas. Ça, c'est pour les enquêtes. J'essaie d'utiliser la même approche aussi pour ce qui est des entretiens semi-directifs. On voudrait vous parler de mobilité et en discussion et discussion. Il y a un principe assez important. J'essaye, ou les gens avec qui je fais faire ces enquêtes ne doivent pas mentionner le mot environnement. Et on doit laisser la personne en parler d'elle-même et ensuite approfondir le sujet. Si ce n'est pas fait vers la fin de l'entretien, là, on va soulever la question de façon explicite. Donc, ce sont des manières pour moi d'essayer de ne pas avoir un biais pro-environnement dans le type de questions que je pose pour être capable, justement, d'arriver à, bon, mais quelle est la, de manière plus, peut-être pas plus honnête, mais moins biaisée, sur l'attitude des représentations et le lien qu'on ressent par rapport à l'environnement. Ensuite, j'ai travaillé, je fais longtemps que je n'ai pas vu malheureusement, avec Ferenc Fodor, qui lui travaille sur, qui est un sémiologue qui travaille sur les médias et la place du climat et de l'environnement dans l'inconscient collectif, qui travaille avec les films de fiction, les livres de science-fiction, les journaux quotidiens. Et ça donne aussi une autre façon de voir comment tout ça s'articule. Donc, pour le type de questions posées, je reviens toujours à ma question de base, c'est-à-dire, je ne présume pas qu'il y a un lien direct et positif entre information, connaissance et comportement, etc. Donc, comment j'articule ça? Mais dans différents domaines, parce que sinon, on s'en sort jamais. Donc, mobilité, entreprise, plan climat, interview, entretien semi-directif auprès de chefs de service, d'élus, d'administrateurs, DG, population, assos même. Il y a des choses intéressantes avec les assos. C'est surtout avec les assos en matière d'environnement qu'on voit beaucoup des tensions, par exemple le local, la protection de l'environnement local, et qu'est-ce qu'on fait avec l'environnement global. Donc on va lutter contre un barrage parce que c'est pas bon au niveau environnemental global, mais c'est une forme d'énergie beaucoup plus propre que. Donc comment est-ce que les assos qui luttent contre le barrage tentent de réduire cette tension cognitive d'éthique et de valeur. Mais on voit aussi la même chose auprès de la population générale, je vais finir avec ça. C'est qu'un des commentaires qu'on a souvent et qu'on a relevé aussi dans une enquête, c'est « Moi, j'ai bien lutté contre le changement climatique, mais il y a 300 millions de Chinois qui font partie de la classe moyenne et qui eux, polluent. Alors, je ne sais pas pourquoi je devrais le faire. » C'est un argument classique, voilà, et qu'on retrouve très fortement en matière de changement climatique.